Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En Éthiopie, journée de deuil national ce lundi après l'accident d'avion au cours duquel un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, qui reliait Addis Abeba à Nairobi au Kenya, s'est écrasé dimanche peu après son décollage de l'aéroport de la capitale éthiopienne. Tous les 157 occupants de l'appareil ont péri. Ethiopian Airlines, la Chine et aussi l'Indonésie ont décidé aujourd'hui d'immobiliser tous leurs Boeing 737 du même type. Et le bureau chinois de l'aviation civile a annoncé qu'il ne reprendra l'utilisation de ces appareils qu'après confirmation par les autorités américaines et Boeing des mesures prises pour garantir la sécurité des vols. Un Boeing du même modèle s'était écrasé lui aussi quelques minutes après le décollage le 29 octobre 2018 au large de l'Indonésie. Un accident qui avait fait 189 morts. Le crash d'Addis Abeba a endeuillé non seulement l'Éthiopie, mais aussi le Kenya et la conférence annuelle du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, qui a commencé ce lundi. Plusieurs employés de cette agence onusienne étaient à bord de l'appareil ont péri dans l'accident. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
En s'écrasant, l'avion a creusé un impressionnant cratère, labourant la terre sur des dizaines de mètres de longueur. L'appareil s'est désintégré à l'impact. Au sol, il n'y a plus que des morceaux de carlingue éparpillés. Le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, s'est rendu sur place. Il a évoqué un jour très triste et tragique.
It is a brand new airplane with no technical remarks, flown by...
Monsieur Gebremariam a précisé qu'il s'agissait d'un avion neuf, sans problème technique connu, et qu'une enquête internationale allait être menée. Le Parlement éthiopien a décrété pour lundi une journée de deuil national. Quelques 35 nationalités étaient représentées parmi les passagers et l'équipage, comme l'a confirmé le ministre des Transports kényan, James Macharia. Le Kenya, le Canada et l'Éthiopie sont les pays avec le plus grand nombre de victimes. Cet accident s'est produit à la veille de l'ouverture à Nairobi de la conférence annuelle de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Une douzaine de personnes employées par l'ONU ont péri dans le crash.
Corne de l'Afrique toujours, le président français Emmanuel Macron est attendu ce lundi soir à Djibouti, allié historique et stratégique de la France, qui ressent depuis plusieurs années un sentiment d'abandon et se trouve confronté à un paysage géopolitique bousculé par la récente réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine. 9 ans après la dernière visite d'un président français, Nicolas Sarkozy, sur place, le président Macron aura un entretien bilatéral avec son homologue Ismaël Omar Guelleh mardi matin, avant de se rendre sur la base militaire française à Djibouti, la plus grande d'Afrique, qui compte 1450 soldats. Après Djibouti, Emmanuel Macron est attendu en Éthiopie dès mardi après-midi, puis au Kenya mercredi et jeudi, dernière étape de la tournée du leader français dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est. Au Nigeria, on attend toujours les résultats complets des élections législatives et des scrutins pour les postes de gouverneur qui ont eu lieu samedi. Quelques 72 millions d'électeurs étaient appelés à voter dans 29 des 36 États du pays. Et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède actuellement au décompte des voix. D'Abuja, le point avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Gilbert Tamba.
Après la présidentielle qui a vu la réélection il y a 2 semaines du sortant Muhammadu Buhari, les Nigériens étaient à nouveau appelés aux urnes samedi pour choisir les gouverneurs et les députés. Depuis, le dépouillement est en cours. Selon les premiers résultats disponibles dimanche, l'état de Gombe dans le nord-est a été remporté par le parti au pouvoir APC. Des incidents ont été signalés dans certains états comme Rivers, dans le delta du Niger, riche en pétrole, alors que la CENI affirme que la sécurité de son personnel dans la région est menacée. Des manifestations ont eu lieu à Port Harcourt, où certains habitants ont affirmé que des hommes portant des masques et des tenues militaires avaient envahi le centre de compilation de la CENI, perturbant ainsi le processus. L'état de Rivers est contrôlé par le PDP, le principal parti de l'opposition. La commission électorale a suspendu le processus dans cet état jusqu'à nouvel ordre. Selon le Centre pour la démocratie et le développement, une organisation de la société civile, les élections du 9 mars ont été caractérisées par une faible participation dans plusieurs États. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élections en Afrique toujours. En Guinée-Bissau, la population s'est rendue aux urnes dimanche pour élire la nouvelle Assemblée nationale. C'est la première fois en plus de 20 ans que le pays achève une législature. Michel Joseph.
Quelques 760 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour un scrutin à la proportionnelle à un tour. Pour la première fois, un minimum de 36% de femmes candidates se sont présentées sur les listes des 21 partis en liste pour 102 sièges à pourvoir. Le chef de l'État, José Mario Vaz, a voté dans la matinée près de la présidence en rappelant l'instabilité chronique du pays depuis 1994.
À partir de cette date, nunca mais...
Il a dit que depuis cette date, aucun président n'avait atteint la fin de son mandat. C'est seulement aujourd'hui que ça arrive, sans mort, sans violence, sans coup d'État. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures et l'armée a été mise en état d'alerte. Un succès du PAIGC pourrait conduire à une nouvelle confrontation entre le président et l'ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira, limogé en 2015. Ce limogeage avait bloqué le Parlement pendant près de 2 ans.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, le gouvernement met en garde les acteurs politiques et les leaders de la société civile contre ce qu'il appelle les dérives susceptibles de porter atteinte aux institutions du pays. Le porte-parole du gouvernement a même annoncé sans embâche sur les médias publics que force restera à la loi et que les fauteurs de troubles répondront de leurs actes. Un message qui fait suite aux incessants appels à la vacance du pouvoir de la part de plusieurs acteurs de la société civile qui jugent le président Ali Bongo Ondimba malade et incapable de diriger le pays. De Libreville, le compte-rendu de notre correspondant Ismaël Obiang Nze.
Le gouvernement gabonais sort de sa réserve et s'en prend au groupe de pression qui, selon lui, menace la stabilité sociale par des propos désobligeants envers les autorités et des appels à la rébellion contre les institutions. Désormais, les acteurs politiques ou membres de la société civile, porteurs de discours idéologiques dans les églises, les hôpitaux et les marchés, auront à répondre de leurs actes devant la loi. Nanette Longa Makinda, porte-parole du gouvernement gabonais.
Le gouvernement rappelle, par ailleurs, que les lieux de culte, les marchés et les hôpitaux sont des lieux dédiés à des activités précises. De ce fait, ces lieux ne sauraient se transformer en tribunes pour les acteurs politiques. Aussi, tient-il à mettre fermement en garde les auteurs de ces actes qui sont de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale, et à les informer de ce que toute nouvelle dérive de cette nature exposeront leurs auteurs aux poursuites judiciaires prévues en la matière pour que force reste à la loi.
L'exécutif gabonais entend faire respecter l'état de droit par des mesures coercitives. En tout cas, cette sortie du gouvernement divise l'opinion publique à Libreville. Noël Mabika est enseignant.
Je crois que le gouvernement, par sa réaction, vient rappeler à tout un chacun que votre liberté à vous ne signifie pas tout dire. Il y a une nécessité de garder une certaine distance par rapport à certaines situations. Et il était quand même bien de rappeler à l'ordre un certain nombre d'acteurs politiques qui, effectivement, sur le dernier temps, se sont donnés des déclarations qui ne sont pas très responsables.
Les membres de la nouvelle plateforme de la société civile gabonaise dénommée l'appel à agir se sentent visés par cette déclaration lue à la télévision nationale. Marc Onaes Sangui, l'un des coordonnateurs du mouvement.
Nous avons, à travers un mouvement, lancer un appel à agir. Et nous sommes dans ce processus-là et nous espérons que le Premier ministre, à qui nous avons demandé une audience, va nous recevoir pour qu'on lui dise en face exactement ce que nous voulons, c'est-à-dire il faut qu'il prenne ses responsabilités pour déclarer la vacance de pouvoir. L'audience a été introduite, ce n'est pas la peine de faire dans la diversion. Le communiqué du gouvernement ne concerne que... C'est peut-être dans leur rêve. Nous allons poursuivre notre activité.
Libreville, Ismaël Obianzé pour la Voix de l'Amérique.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute du Tchad, le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yahya Ibrahim, annonce que 400 combattants du groupe rebelle tchadien Union des Forces pour la Démocratie et le Développement ont déposé les armes la semaine dernière, des allégations démenties par le président de ce groupe, Mahamat Nouri. Merci de votre attention.
On y va. On t'a pas dit...